Le cheat meal est-il indispensable à un bon équilibre de vie ou à l'inverse le plus court chemin vers la blessure ? Aude va tout nous expliquer dans cet épisode. Allez, c'est parti ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Happy Run, des apiculteurs passionnés par la course à pied et amateurs de longue distance qui proposent une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous intéressons principalement à ce point important et si complexe, la nutrition sportive et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui, nous partons manger un cheat meal avec Aude Bazin, nutritionniste. Dans un précédent épisode, nous avions parlé glycémie avec Aude et cette fois, nous échangeons sur ce fameux repas de triche ou parfois vu comme un repas récompense, repas de récup, repas de réconfort et même d'amour. Oui, oui, d'amour. On a parlé d'amour dans cet épisode. Alors, faut-il bannir ces repas trop gras, trop sucrés, trop salés, trop copieux, trop arrosés, trop près de l'effort, avant ou après? Car c'est le problème du cheat meal, en fait, hein. Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Comment le gérer? À quel moment le manger? C'est pas si simple et forcément, Aude nous propose une vision bien plus nuancée que il faut absolument le bannir ou alors c'est vraiment indispensable. Car si le cheat meal, ou plutôt l'accumulation de cheat meal, est le plus court chemin vers la blessure, c'est aussi un temps de respiration, de pause, de vie sociale dont il ne faut pas négliger l'intérêt. Alors, que faire? Vous avez constaté que si Aude ne peut pas vraiment dire qu'un plat est meilleur ou pire qu'un autre, elle nous propose quelques règles. L'intérêt du fait maison est de savoir ce qu'il y a dedans, le bon moment pour le prendre, les plus mauvais moments pour le prendre aussi, les conséquences sur notre organisme. Bonne nouvelle, Aude ne nous prive pas de certains plats que nous aimons, mais peut-être un peu plus de nos arrêts boulangerie à vélo. Oui, oui, ça je dois le dire, si vous faites du vélo, attention, il y a peut-être une mauvaise nouvelle. Et avant de vous laisser ma discussion avec Aude, je veux remercier Coro qui sponsorise cet épisode. Dans notre discussion, nous parlons de savoir ce que nous mettons dans notre assiette, y compris pour le fameux cheat meal. Et ma conviction personnelle, c'est que manger sain, ce n'est pas manger triste. Il est possible de se préparer de nombreux plats gourmands avec quelques ingrédients bien choisis. Par exemple, pour ma part, je me régale avec un dal, du riz et des lentilles corail au lait de coco, des pois chiches dorés aux épices, des cookies maison à la cacahuète, des ingrédients de base que vous pouvez acheter en ligne directement chez Coro, koero.fr, la boutique pour les passionnés de produits sains. Coro propose plus de 1200 produits. La marque privilégie les emballages grand format pour éviter de consommer trop d'emballages plastiques et opter pour un circuit commercial court entre le producteur et le consommateur quand c'est possible. Et pour vous aider dans votre budget, nous allons négocier avec une réduction sur toute la boutique. Il vous suffit de vous rendre sur la boutique Coro, koero.fr, et utiliser le code HAPPYRUN5 pour en profiter. Je remercie tout particulièrement Coro de soutenir ce podcast et je vous laisse maintenant avec ma discussion avec Aude. Allez, c'est parti. Bonjour Aude.
Bonjour Bertrand.
Comment vas-tu?
Ça va et toi?
Ça va très bien, écoute, hein, moi il fait beau, tu sais, tout comme ça, et je suis pas encore, on n'est pas encore rentré dans l'automne, alors je le dis parce qu'on enregistre 28, si on est rentré dans l'automne, mais pas le vrai automne, tu vois.
C'est ça.
Et on est le 28 septembre, et je me dis, tu vois, dans un mois, quand même, on passe à l'heure d'hiver, par rapport à la date où on enregistre, un moment à peu près de la diffusion, et moi, c'est le moment où on va rentrer dans pile le truc du sujet du jour, c'est-à-dire... C'est ce moment réconfort, etc. Tu vois, avoir une espèce de relation à l'alimentation qui devient plus gras, plus salé, plus sucré, plus grasse, plus lourde, plus ce fromage,
plus
etc.
Hein? Ouais, c'est la saison de la tartiflette en fait.
Ouais, pour tout le monde.
Oh, je sais pas, mais je crois qu'elle est officiellement ouverte à ce moment-là.
Bon. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on va parler de cheat meal. La dernière fois, on avait parlé de glycémie, de capteur de glycémie. Et là, dans ma tête, tu sais, je me suis dit, alors la dernière fois, on a parlé des capteurs de glycémie. Là, on va voir comment on va faire monter notre glycémie avec un repas, etc. Mais d'abord, on va faire les présentations. Parce que ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode d'avant, il faut en fait qu'ils te représentent. Hein, pour ceux qui, même si je sais que tout le monde a quasiment écouté l'épisode d'avant, mais quand même, en quelques mots.
Alors, en quelques mots, je m'appelle Aude Bazin. Je suis nutritionniste diététicienne. Je suis à Reims, j'ai un cabinet en libéral et j'interviens au Krebs aussi de Reims deux fois par semaine.
Et on avait dit, hein, tu fais plein de sport, hein, tu as plein de suites de sport et tout parce qu'il y a plein de sport au Krebs. Hein.
Oui, oui, tout à fait. Il y a plein de sports, il y a du hand, du basket, du short track, du triathlon. Il y a des athlètes aussi, il y a de l'athlétisme et il y a de l'escrime.
Bon, tout ça, ça fait des jolis profils. On peut se dire que tu as une belle vision de plein de sports, etc. différemment, mais alors, j'ai envie de te dire, le cheat meal, alors déjà, il faudra définir ce que c'est. Moi, qui dans ma vie, j'ai perdu 30 kilos, j'attendais ce repas des fois certaines semaines et tout, on me disait, il y a un petit repas de triche là et tout qui peut arriver. Mais est-ce que tes sportifs que tu suis, c'est quelque chose qui est important pour eux, avec lesquels tu en discutes avec eux ou quoi?
Oui, le cheat meal, c'est super important, quel que soit le sport, parce que le cheat meal, c'est à la fois important pour le confort psychologique du sportif, quelle que soit sa discipline, Mais c'est aussi important parce que manger, c'est pas que s'alimenter, se nourrir, c'est aussi partager un moment, c'est un moment social. Et le cheat meal, ça peut être ça, c'est se retrouver avec des amis et passer un bon moment tout simplement sans culpabiliser, sans se prendre la tête, en voulant simplement se faire plaisir.
J'ai envie de dire, c'est presque être normal dans un environnement où on se met plein de contraintes et puis on rejoint un petit peu les gens qui sont, qui n'ont pas les mêmes contraintes que nous sur l'alimentation. Des fois aussi, ce moment social-là, c'est de dire un peu, je suis pas exclu de vos soirées, de repas de famille, des repas avec les amis, etc., quoi.
Oui, et en même temps, quand tu dis normal, ça m'interpelle parce qu'au fond, la normalité, elle dépend du référentiel dans lequel on se trouve. Et ta normalité, ce n'est pas forcément celle de quelqu'un d'autre. Quand des personnes que je vois me disent, bon, ben voilà, moi, le cheat meal, c'est tous les jours, mais eux, pour eux, ça n'est même pas un cheat meal puisque c'est leur manière de vivre, et ben, à ce moment-là, on n'est pas effectivement dans la même normalité.
Mais tu sais, j'ai fait exprès d'employer ce terme normal parce que il y a beaucoup de sportifs qui paraissent comme des extraterrestres, en fait, en disant mais pourquoi vous faites ça, mais tu manges de tels trucs, etc., les contraintes qu'on peut avoir et tout. Et je parle pas que des pros parce que je parle des amateurs parce que et dans le podcast, j'ai eu quand même plein d'amateurs qui ont une alimentation qui est tellement plus cadrée que des pros et même des athlètes qu'on a pu
Ah mais
avoir
oui,
en
tout à
échange,
fait.
que je me dis c'est vrai que par rapport à plein de gens, il y a des trucs qu'on fait en tant que sportif qui paraissent pas vraiment classiques pour la majorité en tout ça, ceux qui font pas du sport. Et des fois, certains, je sais que j'ai des retours de personnes qui me disent, ah mais mon entourage, il comprend pas ça, mes amis comprennent pas, ma famille, ils comprennent pas pourquoi je mange ça, pourquoi je fais attention à ça, etc. Tu vois, c'était dans ce sens-là aussi. Je disais des fois, on peut se paraître un peu anormal par rapport à un entourage qui a pas les mêmes pratiques et la même vision de la place de l'alimentation pour nous.
Alors, c'est très vrai. Et là, ça soulève aussi une autre des difficultés, c'est culturellement, c'est là qu'on se rend compte qu'en France, on est quand même un petit peu en retard. Alors, je n'ai pas tellement de référentiel sur des pays européens, par exemple, mais quand on veut faire du sport en France, on voit bien tous ceux qui nous écoutent et qui ont une famille, des enfants qui font aussi du sport, on voit très bien, notamment sur les sports collectifs, que à l'issue des matchs, quand l'équipe qui reçoit organise le goûter pour l'équipe qui est reçue, généralement, quand on a de la chance, c'est des gâteaux faits maison ou des crêpes, et quand on n'en a pas, c'est des barres céréales ou des 4 quarts emballés avec de l'Oasis et du Coca, parce que ben, tu comprends bien, il faut du sucre pour ces enfants. Donc évidemment, quand les enfants ils ont été biberonnés à un cheat meal à chaque occasion, ils comprennent pas pourquoi tout à coup il faudrait changer.
Ça me rappelle toujours le truc avec ma fille quand on va au goûter, tu sais, qui sont organisés à l'école de musique, etc. Quand on fait les gâteaux maison, nous, les gâteaux, il y a tellement pas de sucre, enfin, il y a très peu de sucre dedans, que quand on les donne aux camarades, en fait, en général, ils font la tête. Et puis ils mangent les petits gâteaux, tu sais, qui sont enveloppés dans des trucs, bah, les barres 4 quarts que t'achètes dans le commerce, etc. Tu vois, ou les petits gâteaux qui sont enveloppés, etc. Et ma fille, un jour, elle avait été choquée, elle me dit, mais pourquoi elle a pas aimé mon gâteau? Mais j'ai dit, bah, peut-être qu'il manque un peu de sucre pour elle, etc. Tu vois, mais c'était difficile de lui faire comprendre que finalement. On n'a pas tous les mêmes habitudes à ce niveau-là, et notamment au niveau du sucre.
Ah oui, au niveau du sucre. Et c'est terrible. Parce que dès le jeune âge, plus on leur donne du sucre, et plus ils sont habitués à ne pas manger la saveur amère. Donc, par exemple, des légumes dont ils auraient cruellement besoin. Et j'ai encore l'exemple en tête il y a peu de temps d'enfants qui ont refusé des cookies que j'avais faits, qui n'avaient rien de particulier, si ce n'est qu'ils étaient au chocolat noir, avec des pépites de chocolat noir. Et ça, c'était trop amer, ils n'aimaient pas.
Mais tu sais qu'hier ma fille m'a sorti un truc et quand même j'étais super étonné sur un gâteau. Elle m'a dit, papa, le chocolat, il est trop fort le chocolat. Et c'était un chocolat cuisine 80%. Alors elle a vraiment l'habitude, mais alors je sais pas si c'est qu'on l'a, j'ai peut-être mis moins de sucre dans le gâteau, tu sais, c'était un banana bread avec du, je sais pas sur le truc s'il y a quelque chose qui compensait pas, mais sur le coup c'est ça m'a étonné. Je dis, Camille, on a l'habitude de manger du chocolat comme ça. Normalement, tu croques dedans, même dans celui-ci. Mais sur le coup, tu sais, c'était. Je me suis dit, bah, il y a peut-être des habitudes aussi qu'elle a pu avoir avec l'école, c'est les goûters, les choses comme ça,
Tout
où
à fait.
finalement, elle a de nouveaux goûts qui arrivent par d'autres biais. Et je me dis peut-être que c'est en train de. Pour elle, il y a peut-être un équilibre qui est en train de changer un peu dans sa tête, en tout cas, ou dans ses goûts, quoi.
Alors, Je pense que la tête, c'est consécutif à ce qui se passe physiologiquement. Alors, il y a un impact, c'est évident, mais il y a avant tout quelque chose de physiologique. Et c'est sûr, de toute façon, je le constate assez régulièrement avec les gens que je suis au cabinet, c'est que quand on travaille sur cette fameuse glycémie, parce que c'est une notion qui vraiment me tient à cœur, et pas que pour le poids, hein, c'est vraiment de manière générale pour la santé, eh bien, plus on travaille avec cette notion d'index glycémique relativement bas, plus on se déshabitue du sucre, plus on s'habitue à une alimentation hyperglycémique, assez sucré, et plus on va ressentir le besoin, c'est même pas l'envie, c'est qu'on le ressent comme un besoin. Et donc, plus on en mange et plus on en a envie, et de la même manière que plus on s'habitue à moins manger sucré, et plus on se rend compte que finalement, toutes ces choses qui étaient très sucrées, en fin de compte, on n'en a pas véritablement envie.
Mais je crois que là, tu vois, c'est important d'expliquer quand même cette histoire que finalement, tu parlais de la glycémie, de l'importance de la glycémie, de cet équilibre. Et là, c'est un petit peu aussi, il y a une course du corps, quoi, finalement, à avoir, plus tu lui donnes de sucre, et plus il va chercher finalement à se rééquilibrer en demandant toujours plus.
Oui, absolument, parce qu'il est toujours dans la recherche d'un équilibre. Et cet équilibre, il va le trouver avec cet apport de sucre, dont il ne sait pas forcément quoi faire d'ailleurs. Donc, comme il ne sait pas quoi en faire, eh ben, il va sécréter de l'insuline qui va rétablir le taux de sucre. Et donc, les taux d'insuline qui vont être sécrétés vont être de plus en plus importants. En fait, l'insuline, on la régule en fonction de ce qu'on mange, tout simplement. Donc, c'est sûr que c'est plus facile d'aller dans un sens que dans l'autre, mais ça se fait. Ça, soyez sans crainte, ça se fait.
Alors, moi, j'en suis la preuve vivante. Hein. Ma quantité de sucre dans mon gâteau yaourt a été divisée par 8, à peu près. Et pourtant, les gens continuent à l'aimer autour de moi. Moi, je continue à l'aimer, etc. Tu vois, donc, ça se fait, hein, très bien. Mais c'est vrai que ce terme, se déshabituer du sucre, est important. Et je pense que, bon, on parle de sport, mais je crois aussi que les gens négligent aussi à quel point c'est important pour même des trucs comme la clarté mentale, la capacité à se concentrer, à éviter les coups de barre à certaines heures, etc. Le nombre de personnes qui parlent de ça et qui se rendent pas compte qu'en fait, ben, ça vient aussi de l'apport en glycémie toute la journée, toute la journée, toute la journée, qui perturbe vraiment le fonctionnement, quoi, du corps, j'ai envie de dire.
Absolument. Alors, on pourrait ajouter de la déshydratation aussi, mais ça va de pair parce que très souvent, quand on mange quelque chose de sucré en se disant j'ai besoin d'énergie parce que je me sens fatigué, on ne se rend pas compte que la première étape, c'est la déshydratation et qu'il faudrait commencer par boire avant de manger quoi que ce soit. Et que finalement, on a l'habitude parce qu'on nous a dit si tu as une hypoglycémie, il faut manger du sucre, mais non, qu'on ne bat pas le mal par le mal. On a une hypoglycémie, bah, on attend que ça se passe et puis ça va aller mieux. Alors évidemment, je parle des cas qui ne sont pas pathologiques. Hein. Quand il y a une problématique de type diabète, on fait autrement parce que l'hypoglycémie, elle peut être grave. Mais dans des cas où on n'a pas de maladie déclarée, il faut simplement attendre que ça se passe, se reposer un petit peu autant que possible, en tout cas rester au calme, boire, et puis ça va aller mieux.
Quoi, tu vas me dire que quand on a une hypoglycémie, on ne jette pas dans la boulangerie, la première boulangerie, en prenant le plus gros éclair au chocolat plein de sucre qu'on peut trouver?
Voilà, c'est ça, c'est exactement ça.
Là
Non, non,
là.
ça peut être quelque chose de beaucoup plus basique.
Ouais, moi qui avais toujours une barre chocolatée dans ma poche à une époque et tout, tu vois, de peur de tomber comme ça, là, dans les vapes. Bon, on va revenir au cheat meal, mais je crois que c'était important quand même de rappeler que cette glycémie, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment au central, au cœur de notre fonctionnement, hein, qu'on soit sportif, pas sportif, que de toute façon tout le monde est concerné. Finalement, tu vois, sur le cheat meal, parce qu'on l'a pas vraiment défini jusqu'à maintenant, parce que là on a parlé un peu de gras, de sucre, un petit peu de tout. Comment finalement tu dirais, c'est quoi ces caractéristiques de ce fameux cheat meal?
Le cheat meal, pour moi, c'est le repas plaisir à risque. Pourquoi plaisir? Parce qu'il y a du gras et du sucre, et ou du sucre. Et à risque, parce que typiquement, le gras et ou le sucre, ça va favoriser les dérèglements, notamment de tout ce qui est autour de la glycémie, et ça va favoriser l'inflammation. Donc, dans les cas qui nous importent, en l'occurrence, la performance et la prévention de la blessure, c'est vraiment le chemin le plus court vers la blessure.
D'accord, même si on fait un cheat meal de temps en temps.
Ah, mais voilà, c'est ça le problème. C'est en fin de compte, le cheat meal, pourquoi pas, puisqu'on a dit qu'il était important. La problématique, c'est véritablement le calendrier du cheat meal. À quel moment on le prend? Parce que le cheat meal, il s'intègre totalement dans un équilibre alimentaire. Il n'y a aucun problème à vouloir se faire plaisir une fois de temps en temps. Simplement, derrière, il ne faut pas s'attendre à vouloir faire une performance. Si, par exemple, le cheat meal, c'est le samedi soir et qu'on a une grosse séance le dimanche matin, c'est peut-être pas l'idéal. Parce que le gras, par exemple, va entraver le travail musculaire. parce que le sucre va favoriser un déséquilibre au niveau de la glycémie et donc ça risque de poser un autre problème aussi. Et puis le cheat meal, dans les aliments plaisir à risque, s'il n'y avait que la notion de c'est gras, c'est sucré, mais c'est fait maison. J'ai envie de te dire, ce serait pas si mal.
Ouais.
Mais ça peut aussi être une problématique liée à un aliment qui est industriel, qu'on s'est fait livrer, dont on ne sait pas quelle est la composition, avec des additifs qui vont être absolument redoutables pour le microbiote intestinal. Ah, ce fameux microbiote sur lequel il faut pouvoir compter toute sa vie. Et donc, c'est encore un autre problème, ce cheat meal, c'est sa composition, quels sont les ingrédients qui le composent.
Ouais, mais c'est vrai que c'est important de le dire parce que c'est toute la différence aussi. Alors ma fille, tu sais, commence à vouloir aller manger des hamburgers et tout dans une chaîne qui a un gros M là et tout. Et en fait, je pense pendant 5 ans, j'ai pas mangé. Et le fait d'y retourner, je me suis dit, mais les hamburgers, je me dis, mais pourquoi j'aime ces trucs-là alors qu'ils sont secs, bah, tu vois, trucs. Alors que en faisant le même à la maison, bah, je pense que au niveau calories et tout, ça doit être comparable. Mais par contre, je sais exactement ce que je mets dedans. Tu vois, je me dis, bon, bah, mon steak, je l'ai pris chez le boucher. Là, j'ai mis de la vraie tomate et de la salade. Mon ketchup, je peux même le faire si je me débrouille bien. Donc, à la limite, je peux même un peu baisser le sucre. Mes frites, je peux les faire même sans gras, tu vois, ou très peu de gras, tu vois, avec des trucs. Et je me suis dit, et en plus, j'ai le sentiment même qu'il est meilleur, tu vois, que mon cheat meal, il est encore plus savoureux que cette espèce de truc que l'autre jour, elle me ressemblait un peu à une semelle. Hein. Alors, je me suis dit, mais qui, en plus, ils ont enlevé la sauce avec l'inflation. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont fait de la shrinkflation en enlevant la sauce.
C'est vrai.
Mais tu vois, le sentiment, c'est de dire, c'est vrai que cette différence entre le fait maison, l'industriel, les fast-food, etc., elle est importante parce que ça change quand même déjà de savoir ce qu'on met dedans, comment on le gère, ce qu'on peut mettre dedans et comment on le prépare.
Bah, ça change tout parce que, en fait, dans un aliment industriel, quel qu'il soit, même s'il a l'air diététique, un aliment industriel, on n'aura pas toujours toute la composition qui sera à l'intérieur. Or, dans un aliment industriel, l'objectif de l'industriel, c'est quand même de faire des sous. Donc, il va essayer de rogner plus ou moins hein, en fonction du type de marque, du prix qu'on met dedans, etc. Mais sur la qualité des produits, il faut aussi de la conservation. On dit qu'il y aura des additifs alimentaires, ça c'est sûr. Et à chaque fois qu'on a un émulsifiant, un additif alimentaire, un arôme même parfois, puisqu'on voit dans des tranches de fromage fondu, par exemple, un arôme fromage, ça me fait toujours rire. Mais donc, avec ces arômes, tous ces additifs, quels qu'ils soient, bien sûr, ils ont le droit de les utiliser. Sauf qu'aujourd'hui, ce qu'on ne maîtrise pas, c'est l'effet cocktail de tous ces additifs sur la santé du corps humain. Et au-delà du fait de ne pas maîtriser l'effet que ça peut avoir, on sait de toute façon, il y a des études aujourd'hui qui le montrent très clairement, que ces additifs ont un impact néfaste sur la composition du microbiote. Et pour rappeler ce que c'est, donc, c'est cet écosystème intestinal qui finalement représente 70% de notre système immunitaire. Donc, quand le microbiote intestinal est perturbé, ben, ça favorise la croissance de mauvaises bactéries au détriment des bonnes bactéries qui nous veulent du bien. Et donc, ça va favoriser éventuellement une prise de poids, des soucis digestifs ou pas. Hein. Il faut bien savoir que même quand on n'en a pas, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un microbiote intestinal qui peut être perturbé. Mais ça peut aussi favoriser donc, la métabolisation de ces ingrédients type additif par les mauvaises bactéries qui vont être dans l'intestin. Ça les métabolise en endotoxines qui vont traverser la barrière intestinale et qui vont aboutir à l'apparition d'une blessure. Qu'on ne mettra jamais sur le dos d'un cheat meal, parce qu'évidemment, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Et je vous rassure, vous n'allez pas tomber malade demain parce que vous avez mangé une pizza de chez je ne sais pas qui, une grande marque qui commence par un D. Mais en tout cas, ça ne vous veut pas du bien, et dans tous les cas, vous avez toujours intérêt à le faire vous-même, votre cheat meal. Ça, c'est sûr.
Et puis, tu sais, il y a un autre truc aussi, c'est, je dis souvent avec les gens qui me posent des questions, sur les restaurants aussi, de se rappeler aussi que une assiette, c'est moi à une époque j'étais fervent des pâtes. À midi je mangeais des pâtes. J'allais dans un petit italien, je me dis oh, si je prends une bonne plâtrée de pâtes, je serais calé pour l'après-midi. Et puis en général 2 heures après j'avais faim. Et avant de comprendre le système, tout avec une de tes collègues, etc. Il m'avait expliqué un peu l'histoire, mais c'est de se rappeler que bon un restaurant c'est aussi une entreprise qui doit équilibrer et que les équilibres alimentaires de l'assiette et de cette fameuse plâtrée de pâtes sont quand même pas terribles, ils vont plutôt maximiser ce qui leur coûte pas cher et éviter d'en mettre trop de ce qui coûte trop cher. Donc protéines moins pâtes plus légumes, ça dépend des cas, hein, surtout si tu prends la crème, et que ça aussi, on ne le maîtrise pas du tout, parce que l'assiette, elle nous arrive, on ne peut pas dire, non, on mettrait plus de viande, ou des choses comme ça, on ne peut pas du tout le maîtriser non plus, ce truc-là. Donc là aussi, c'est parti d'un équilibre, même si c'est un cheat meal, on peut quand même se dire que l'effet, on peut un peu le limiter si on fait un peu attention à certains équilibres.
Absolument, l'équilibre, il est important, et là, on peut aussi ajouter que dans un restaurant, on ne maîtrise pas non plus la quantité de gras. Alors, on ne va pas dire qu'ils font mal leur travail. Ce n'est pas ça, hein, parce qu'on mange des très bonnes choses en plein de restaurants quand il y a des maîtres restaurateurs. Le souci, c'est simplement de se dire qu'à partir du moment où on mange à l'extérieur, qu'on ne maîtrise pas ce qu'il y a dans l'assiette et la répartition par rapport à ce que l'on sait de soi, parce que généralement, je suis convaincue que les gens qui écoutent cette émission, ils se connaissent bien, ils savent comment ils fonctionnent. Eh bien, forcément, il y a un déséquilibre qui se crée. Et je vois plus de déséquilibre dans les repas subis chez les gens qui vont régulièrement au restaurant, même s'ils choisissent des choses qui sont très, très bien, que chez les gens qui cuisinent eux-mêmes. Parce qu'on sait que le restaurateur, par exemple, ça va être plus facile pour lui d'aller cuisiner avec une huile type huile de pépins de raisin ou tournesol, parce qu'elle est neutre en goût, parce qu'elle coûte moins cher, mais qui est aussi plutôt pro-inflammatoire. Puis on ne sait pas non plus dans quelle quantité. Donc bon, tout ça mis bout à bout, ce sont plein de petits détails qui vont favoriser les déséquilibres chez des gens, donc les sportifs, qui parfois sursollicitent leur organisme avec des volumes d'entraînement qui peuvent être suffisamment importants pour que justement ça nécessite de faire encore plus attention à leur alimentation.
Et on ne parle même pas des repas de prix en entreprise, cantine d'entreprise, etc. Où là, en plus, il y a une pression sur les coûts, on ne maîtrise pas tout à fait en plus certaines choses, etc. Enfin, là aussi, parce que j'en ai eu des gens comme ça, qui me disent même, au final, je n'ai même plus envie d'y manger. Alors, certains d'ailleurs finissent par le remplacer par leur Tupperware, quoi, d'amener leur propre repas, justement pour éviter ce genre de choses-là. Alors, on sort un peu du cheat meal, mais on est quand même dans cette problématique de se dire il y a certaines formes d'alimentation qui, des fois, on ne peut pas maîtriser ce qui est fait par quelqu'un d'autre que nous, quoi.
Exactement, on subit. Et puis, on n'est pas loin du cheat meal quand même parce que tu as un restaurant d'entreprise. Et puis, grosse réunion, tu avais un projet à présenter, ce qui ne t'empêche pas d'avoir une épreuve à préparer aussi. Et puis, tu as peut-être envie un peu de lâcher la pression, de te dire, bah, tiens, ce midi, non, j'en peux plus, je me fais plaisir et puis je prends un steak frites. On est quand même en plein dedans. Alors que peut-être que si tu étais rentré chez toi, eh bien, tu aurais préparé quelque chose de différent parce que tu as sorti des filets de poulet la veille, que de toute façon, ta purée de pommes de terre elle est déjà prête, que tu n'as plus qu'à faire réchauffer des légumes et tout va bien.
Et j'ai envie de dire, tu as aussi l'espèce de pression sociale. De te dire, bah, si je me prends une salade alors que mes collègues ils mangent un steak frites, déjà ça peut me faire envie, et puis en plus il y en a certains qui se moquent en plus en disant, mais tu bouffes que de l'herbe ou je sais pas quoi. Moi j'ai déjà entendu ce truc là, dire, mais t'es sûr que tu vas avoir faim, etc. Ce regard des autres, etc. Ou quand en entreprise, ou on en parlait tout à l'heure, on disait en famille ou autre, mais finalement il existe dans plein d'endroits où on mange pas tranquillement, j'ai envie de dire, on a toujours ce regard des autres, c'est des fois des commentaires pas très sympathiques.
Oui, et puis non, mais de toute façon, t'as vu comme t'es, c'est pas la peine, allez, tu feras attention demain, ou c'est bon pour une fois, tu vas pas nous faire chier. Pardon hein, pour l'expression, mais quand même, c'est des choses que je vois et que j'entends régulièrement.
Oui, parce que ça, j'ai pas de doute. Et il y en a qui mettent pas de gants, hein, franchement, qui disent, qui donnent même des conseils. Le pire, c'est même les gens qui donnent des conseils, disent, ouais, mais non, ça, tu peux le manger, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Alors, c'est vrai que les gens qui écoutent notre podcast, c'est quand même des gens qui font attention, etc. Ouais. Mais on subit quand même ce truc-là, c'est pas si facile que ça, tu sais. Moi, je donne souvent l'astuce de dire, si vous voulez être sûr de savoir ce que vous allez manger, commandez en premier au restaurant, au moins, vous n'allez pas tenter parce que tous les autres vont avoir et que ça va vous tenter. Mais c'est pas si simple que ça, en fait. C'est-à-dire qu'on rentre très rapidement dans ce fameux cheat meal, en fait, sans s'en rendre compte. Même si on part avec plein de bonnes intentions, à un moment donné, on peut très vite basculer sans même, je vais pas dire sans le vouloir. Mais la limite, elle est facile à franchir.
La limite, elle est facile parce qu'il y a la pression sociale, parce qu'il y a la disponibilité, parce que parfois, on n'avait pas prévu, et puis on va dans des restaurants type restaurant chinois, et puis on voit le buffet, et puis on dit « Oh, ben, ça a l'air sympa, oh, ben, tiens, ça, je connais pas. Oh, ben, j'ai jamais testé, pourquoi pas ?» Et voilà, et de fil en aiguille, effectivement, ça va très, très vite. Et puis, la faim est mauvaise conseillère, de toute façon. On arrive à un repas, ventre affamé n'a pas d'oreille, donc il suffit d'avoir faim pour faire les mauvais choix, en fin de compte.
Ouais, je crois que le pire, c'est les petits japonais aussi, où tu as du riz, on ne se rend pas compte à quel point il y a du sucre et tout à l'intérieur. Enfin, y a tout un tas de pièges, même des trucs où tu dis oui, mais finalement, c'est du riz, du poisson, etc. En fait, c'est une discussion que j'ai eue il n'y a pas très longtemps, mais en fait, non. Quand tu sais comment on fait le riz, des sushis, etc., quand tu vois tous les ingrédients qu'il peut y avoir autour, Même ce qu'ils te disent, c'est du poisson, bah, finalement, l'équilibre, il n'est pas facile à respecter, hein.
Non, il n'est pas facile à respecter, mais c'est là qu'il faut aussi faire attention de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que là, par exemple, tu prends l'exemple des sushis, on est dans le cheat meal, mais on est dans un cheat meal qui reste raisonnable. Ça dépend du type de sushi que tu choisis, hein, évidemment, mais sur du basique. Et puis, c'est même un repas qui peut devenir un repas de préparation ou de récupération en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Parce que oui, bien sûr, ça fait monter la glycémie à vitesse grand V et à une hauteur vertigineuse. En revanche, si derrière, il y a une séance, par exemple, avec une grosse sortie à faire, bah, pourquoi pas, ça se justifie. Donc, j'y fermerai pas forcément la porte.
Bon, je vais même te dire que j'ai vu des gens qui prennent des sushis, alors qu'ils le font maison, sushis végétariens, etc., qui mettent ça sur de l'Ironman, tu sais, sur le vélo, etc., qui mangent ça. Parce que finalement, riz, alors je crois, tu sais, ils mettent de l'avocat, des choses comme ça dedans, mais finalement, bon, on en revient après à savoir exactement ce qu'on met dedans, hein, en disant, finalement, oui, on a des bons glucides, on a du bon gras, enfin voilà, et préparé d'une bonne manière. Mais c'est vrai que le truc, c'est que ça, c'est pratique à emporter aussi certaines choses, et donc c'est gérable, et c'est vrai que ça peut être gérable plus facilement que d'autres trucs. Après, je suis d'accord, par exemple, ma truffade, tu vois, en Auvergne, nous en Auvergne, on a la truffade, tu sais, on parlait de fromage tout à l'heure. Après un trail, bon, oui, là, avant moi, un trail, c'est compliqué, quoi.
Voilà, voilà. Bon, après, pourquoi pas, sauf que après un trail, il ne faut quand même pas oublier que l'effort, il a été long, enfin, plus ou moins selon les participants, c'est toujours pareil, ça dépend où tu te situes, mais néanmoins, ça reste un effort qui est important et qui a favorisé une ouverture, justement, des jonctions serrées entre les cellules de l'intestin, donc qui favorise une hyperperméabilité intestinale. C'est franchement pas le moment d'aller mettre du gras saturé, trop de gras saturé. La truffade, moi, j'ai rien contre, hein, au contraire. Je veux bien la goûter quand tu veux, mais pas le jour J.
Mais tu sais que nous, il y a des trails, je te jure, en Auvergne, où il y a de la truffade en truc d'aride. Hein. Enfin, moi, j'ai fait un trail, alors le trail du Sancy, de la Perdrix. Alors, Sancy, je sais pas, j'ai un doute, la Perdrix, c'est sûr. Le repas à l'arrivée de la course, c'est de la truffade, tu sais. Et les gens, ils viennent pour ça, d'ailleurs. Hein. Il y en a qui disent, mais moi, je suis venu courir parce qu'il y avait la truffade à l'arrivée, tu sais. Comme j'ai eu quelqu'un un jour au club qui m'a dit, mais moi, ma sortie longue du dimanche, je la fais pas si à l'arrivée, je me paye pas un gros hamburger. Et tu vois, dans cette logique-là, je sais pas si c'est le meilleur moment. Alors, elle, ça la motive, mais est-ce que finalement, pour la récupération, le cheat meal juste après la sortie longue, c'est une bonne idée?
Ah ben non, ça, c'est pas l'idée du siècle. Mais quand tu me parles de ça, ça me fait penser au marathon du Médoc. Typiquement, ça va pas ensemble. Enfin, y a un moment, il y a quand même quelque chose qui est perturbant intellectuellement. Donc, on le sait que c'est pas possible, ce genre d'association. Et pour autant, effectivement, quand on va en Bretagne, on sait qu'à l'arrivée, ça va être galette saucisse. Bon, on fait en fonction du territoire sur lequel on est. Et je trouve que c'est génial d'avoir ce type de spécialité, effectivement, de découvrir des nouvelles choses. Et après, on pourrait envisager que pour tous les gens qui viennent soutenir la personne qui a fait ce trail, par exemple, ben, pourquoi pas, c'est une bonne idée, ça leur fait découvrir ou en tout cas goûter quelque chose de bien. Pour l'athlète en lui-même, je ne suis pas convaincue que ce soit l'idée du siècle. Peut-être qu'il faudrait organiser la truffade à emporter. Je ne sais pas si ça se réchauffe bien.
Non, j'ai un doute. Ça ne fait pas de fil.
Oui, moi aussi. Non. Mais en fin de compte, le cheat meal, le vrai souci, c'est le cheat meal qui est autour de l'effort.
Ouais.
Parce que le cheat meal en lui-même, ben, évidemment, il y a une gradation. Hein. Il y en a qui sont moins pires que les autres. On parlait des sushis, c'est pas le pire. Après, ce qu'il faut, c'est prioriser en fonction de sa situation individuelle. C'est-à-dire que celui qui n'a jamais été blessé, qui a déjà une belle carrière sportive derrière lui, qui se débrouille plutôt bien au quotidien, qui sait gérer son alimentation et ses efforts, bon, ben, pourquoi pas. Et puis, c'est en fonction à la fois de la situation du sportif et en fonction de ce qu'il va trouver. C'est-à-dire que tu me parles de truffade. Bon, la truffade, si mes souvenirs sont bons, c'est de la pomme de terre et du fromage.
Oui, puis tu rajoutes un peu de
Un peu de
jambon, un peu de
crème.
jambon sec, de la
Oui.
crème, tu vois, des trucs, un peu de gras, enfin de l'huile, enfin un truc dans ce genre-là, tu vois.
Donc, le vrai problème de la truffade, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas forcément d'éléments protecteurs de type fruits et légumes et on a trop de gras. Mais globalement, les pommes de terre, ce n'est pas problématique. On a des protéines pour la récupération. Alors, ce qu'on pourrait envisager, c'est une truffade, pourquoi pas. Ça pourrait être pas mal d'apporter une compote, une petite soupe dans une thermos en plus pour être avant, histoire de minimiser en fin de compte les effets un peu délétères de la truffade. Mais je crois que finalement, si on veut trouver des solutions qui sont pragmatiques, l'idée c'est de se dire que si ça fait partie de la motivation de la personne à faire cette épreuve-là, bah, ok, ça fait partie de la motivation. Donc on va pas lui dire, oh, surtout, le fais pas, parce que de toute façon, elle va le faire. C'est comment on accompagne ce cheat meal. Parce qu'il va y avoir ceux qui arrivent à se dire, non, non, c'est bon, je suis raisonnable, je le fais pas. Et ça, ce serait vraiment chouette. Et je pense qu'au même titre qu'il y a plein de personnes qui arrivent à faire des préparations formidables avant leur épreuve et pour les ravitaillements d'épreuve, il faudrait peut-être réussir à penser à l'après, avec quelque chose qui soit à la fois réconfortant et protecteur. C'est ce que j'essaye de faire quand je prépare des recettes que je commence à mettre sur une chaîne YouTube parce que je constate que les gens manquent d'idées. Ils feraient bien, mais ils manquent d'idées. Mais donc, réussir à avoir ces préparations qui font du bien, qui font plaisir, parce que j'ai bien conscience que quand on a passé plusieurs heures sur un trail ou sur le bitume, on a envie de réconfort. Donc, c'est tout à fait normal. Mais il faut autant que possible que ce soit protecteur. Et on se dit, le cheat meal, c'est pour après. C'est pas toujours évident, parce que quand c'est sur un week-end, qu'il faut retourner au boulot, qu'on vient tous d'horizons différents, qu'on se sépare et qu'on ne s'est pas vu depuis un moment, ben, c'est là qu'on s'adapte et qu'on fait avec. Et à ce moment-là, comment on gère la composition du cheat meal pour faire en sorte qu'il fasse le moins de dégâts possible?
Ouais, moi, tu sais, l'an dernier, après mon 24 heures, bah, c'était il y a un an, là. Qu'est-ce que je l'ai apprécié, mon burger, après avoir couru 24 heures, tu vois, j'avais mal aux jambes, etc. Mais et c'est sûr, on était certain nombre à avoir couru, tu vois, des partenaires, etc., dont Apiron, tu vois, etc. Et c'est vrai que, tu vois, et je me dis, bon, il y avait quelques feuilles de salade, etc., mais en lui-même, tu vois, ce moment réconfort, pouvoir partager un petit peu les aventures, etc., c'est vrai que ça fait plaisir. Alors après, est-ce que
Bien
pour la
sûr.
récupération, et peut-être qu'il n'est pas idéal, etc. Mais c'est difficile quand même de pas succomber, tu vois.
Alors, je pense que c'est difficile de ne pas succomber parce que on ne sait pas. On ne sait pas quelles sont les problématiques qu'il y a derrière. Et on voit ça comme bah, tous les efforts que j'ai faits, maintenant j'ai droit à ma récompense. Et ça, je trouve que c'est complètement entendable. Après, ce qu'il faut, c'est avoir la connaissance. C'est quoi, à quoi on s'expose finalement en prenant un cheat meal après une épreuve? Eh bien, c'est tout simplement le processus accéléré d'une alimentation déséquilibrée. Eh bien, en un repas, on peut mettre des semaines d'alimentation équilibrée par terre avec un risque de blessure, de tendinite à la prochaine sortie, juste parce qu'il y a eu un gros cheat meal après une grosse épreuve. La problématique, elle est là, c'est quelle fragilité, et ça, on est tous différents. Donc, c'est difficile de dire, oh, bah, tiens, moi, je fais des statistiques, je sais que si on mange ça, à tous les coups, on va être pas bien, on va se blesser. Non, c'est pas vrai, parce que bah, la vie, elle est injuste par rapport au poids, par rapport aux blessures aussi. Je vois des gens qui font n'importe quoi et qui arrivent à ne pas se blesser, et bah, tant mieux pour eux, c'est tout ce qu'on peut dire. Mais le plus souvent, c'est quand même de voir des gens qui essayent de faire attention. Et puis, bah, là, je crois qu'on est tous sur la notion de on a un boulot, le plus souvent à temps plein, avec ou pas des enfants. Mais bon, les enfants, bien sûr, on les adore, mais ça peut être une source d'inquiétude supplémentaire qui rajoute au stress qu'on peut vivre au quotidien. On essaye d'y caser des séances d'entraînement avec des objectifs. Parfois, c'est l'objectif d'une vie, parfois, c'est l'objectif d'une année. Et forcément, il y a beaucoup d'enjeux autour de ça, donc on fait très attention et on se dit, là, c'est la récompense ultime, c'est après, oui, je me lâche un peu. Attention, peut-être qu'on peut tenir 24 heures de plus pour se lâcher, rien que ces 24 heures, elles sont importantes pour faire en sorte que le corps il se repose et pour être en capacité d'absorber ces aliments qui sont quand même un peu plus nocifs que dans d'autres conditions.
Mais tu sais que c'est un truc, c'est vrai que quand tu dis que les gens on le savent pas, mais en fait, tout le monde cherche les gadgets pour récupérer, enfin les gadgets, après ça marche pas, tu sais, mais je pense aux trucs de compression, aux trucs qui font des massages et tout. Et quand t'entends un mec comme Kian Jornet, quand tu lui demandes comment il récupère après un UTMB, donc 170 bornes, il dit bah, je dors et je mange. C'est l'espèce de logique, tu sais, de dire je fais des bons repas. Pour remettre de la protéine, pour reconstruire, pour reprendre des glucides, pour refaire les stocks, des légumes, des fruits, des vitamines, et je dors. Ça te paraît tellement simple, alors qu'à côté, tu as tout un tas de vendeurs de produits, de pilules, de trucs magiques qui t'essayent de te vendre des choses, que les gens, je me demande si des fois, tu vois, ils se disent, ouais, mais c'est trop simple pour que ce soit vrai, en fait.
Ah mais je suis complètement d'accord avec toi. Et en fait, c'est ça qui est terrible, c'est de se dire que parfois les problématiques elles sont complexes. Je vois des gens qui viennent me voir avec des blessures, mais juste ça s'est monté à une vitesse grand V et ça s'est aggravé très très vite. Et en fin de compte, il y a des choses toutes simples sur du stress, apprendre à respirer. Et j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes quand je dis ça. Et effectivement, ça ne coûte rien. C'est juste attention. Il y a des moments vraiment particuliers où il faut faire extrêmement attention à son alimentation. Bon, moi je ne vais pas parler de la cohérence cardiaque parce que c'est pas mon domaine. J'y connais un tout petit peu, mais voilà. C'est vraiment un vernis que j'ai. Mais en tout cas, en termes d'alimentation, une chose dont je suis convaincue, c'est qu'on peut éviter tellement de choses en faisant un repas de récupération. Ce repas de récupération, il va éviter tellement de problèmes derrière, c'est dommage de s'en priver. Et je pense que les gens ne le savent pas.
Donc l'idée c'est que après un gros une compétition, un gros effort, etc., on est plutôt au repas de récupération et donc le cheat meal, il arriverait finalement le lendemain ou le surlendemain.
Exactement. Et en fin de compte, le cheat meal, je pense que idéalement, ce qu'il faudrait, c'est le décorréler de l'effort. Se dire, trouver d'autres moyens. Je pense notamment au club. Parce que quand on fait du trail, de l'ultra, du cyclisme, qu'on a des épreuves, des compétitions qui durent des heures, on ne fait pas ça tout seul. On est licencié, on est dans un club, on fait ça entre potes. Et en fin de compte, se dire, tiens, on va créer des occasions pour se faire des cheat meals qui ne nous fassent pas tant de mal que ça. Ok. Il y a l'AG, forcément, chaque année on n'y coupe pas. Pourquoi pas? Ça peut être, est-ce qu'une fois tous les trimestres, si une fois tous les mois c'est trop, on ne pourrait pas prendre les anniversaires des adhérents du club et puis se dire, tiens, on se fait une soirée, et puis peut-être pas à tout le monde, parce que vous faites ça aussi en fonction des affinités, mais je pense qu'il faut créer des occasions qui sont différentes des occasions actuelles que sont les compétitions pour ce cheat meal.
Et tu sais, alors moi, il y a quand même un truc, tu sais, ça fait un peu récompenser, t'as dit décorer l'effort, etc. Je me demande si on n'a pas un truc d'éducation aussi dans cette histoire de. Tu sais, c'est un peu comme le dessert. Des fois, je dis. Tu sais, t'as des gamins, on me dit, tu fais pas ça, t'es privé de dessert, etc. Tu vois, où c'était vraiment la
Complètement.
récompense ultime. Et j'ai l'impression, je me demande si culturellement, on n'est pas resté aussi là-dedans, en tout cas avec l'éducation que moi j'ai pu avoir dans des choses-là, te dire que finalement, ça reste quand même une sacrée récompense, la bouffe, non, pour plein de gens.
Alors, c'est une récompense et c'est de l'amour. Parce que, alors,
Je
c'est
pensais
vrai,
pas qu'on
ça a
parlerait
l'air
d'amour
d'être un vrai
aujourd'hui.
grand mot. Ben non, mais justement, l'objectif, c'est de se dire que l'alimentation, c'est pas de l'amour. C'est de se dire, c'est pas parce que, regarde, voilà, tu t'es fait mal, bah tiens, t'inquiète pas, je vais te donner un bonbon. Ben non, un gosse qui s'est fait mal. Ok, on le prend dans ses bras, on lui dit t'inquiète pas, ça va bien se passer, on va s'occuper de toi, mais on lui donne pas un bonbon parce qu'il s'est fait mal. Moi, je vois quand même des professionnels de santé qui donnent encore des bonbons à des enfants. Et là, je me dis, les dentistes, ils ont encore de beaux jours devant eux.
Bah,
Je
surtout que
parle
des fois,
quasiment
c'est les
même pas aux
dentistes qui les
soins.
donnent les bonbons en plus.
Oui. Donc, il y a quand même des choses qui me perturbent un petit peu là-dessus. Mais justement, je crois que là-dessus, encore une fois, hein, les gens que je vois, ils me disent, à chaque fois que j'ai été consolée, on m'a donné à manger. Et ce sont des gens qui développent des troubles du comportement alimentaire parce que quand on cherche du réconfort, on va assez naturellement chercher à manger. Alors que justement, si on cherche un autre type de réconfort qui mette comment dire, qui nous demande un autre sens, eh bien, ça pourrait être intéressant parce que dans les autres sens, on a quand même la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher. Est-ce qu'on ne peut pas se faire aussi plaisir en allant regarder, tiens, je vais me faire un épisode sur Netflix de ma série préférée ou écouter de la musique ou prendre le temps de se faire une balade. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles et qui pourraient apporter, à mon avis, du réconfort pour ne pas avoir ce cheat meal sur le moment. Alors, la balade, après, j'y crois pas trop, hein. Il y a peut-être d'autres choses qui peuvent être sympas, qui peuvent être testées.
Mais c'est vrai que, par contre, ce réflexe, hein, et c'est une discussion, parce que je me rappelle, on avait parlé avec Leïla Dapiron, avec différentes personnes, mais tu sais, moi, par exemple, je crois que c'est Mathieu Blanchard qui a fait deuxième de l'UTMB l'an dernier et tout, et qui dit, bah, à l'arrivée de la course, moi, ce que je vais chercher, c'est une glace, tu vois, ou je sais plus si c'est lui, je crois que c'est lui, tu vois, qui dit, moi, à l'arrivée d'une course, je vais me chercher une grosse glace, etc., c'est ce qui me fait plaisir, et autres. Et puis, tu as d'autres personnes qui disent, mais je comprends pas pourquoi il y a ce besoin d'aller chercher ce truc-là, tu vois. Et je pense qu'il y a vraiment une question d'éducation quand même, de lien avec tout
Oui,
ça, etc. Parce que
complètement.
j'ai du mal à l'expliquer, tu vois. Je pourrais me dire, le corps, on dit toujours qu'il y a ces fameuses fenêtres métaboliques, là, où le corps, dans la demi-heure après l'effort, etc. Toi. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il peut... Est-ce que... Pff, on a,
Alors là-dessus, je suis assez partagée parce que j'ai quand même vu beaucoup de publications qui disent des choses différentes.
Ouais.
Et parmi ceux qui n'ont rien à vendre, il y a des gens très sérieux qui expliquent quand même que cette fenêtre métabolique, elle va durer quand même 24 à 48 heures.
C'est vrai.
Donc, tu n'es pas obligé de te jeter sur la première source de sucre possible juste parce qu'il faut absolument profiter de cette fenêtre métabolique.
D'accord.
Si tu es usé et que la première chose que tu as envie de faire, c'est prendre une douche et aller te coucher, ben vas-y, c'est pas un problème, tu mangeras après.
Le corps, il attendra un petit peu, mais de toute façon, il faut lui donner, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut lui donner, mais
C'est
t'es pas
ça.
obligé de lui donner dans la demi-heure, juste tu passes la ligne d'arrivée et tu manges tout ce qui se passe derrière, quoi.
Non, d'autant plus que on est tous différents et il y a aussi des gens qui me disent bah moi après une épreuve j'ai pas faim. Parce qu'il y a des épreuves, enfin, il y a des épreuves, puis il y a des personnes chez qui c'est anorexigène, ça leur coupe la faim, ils ne peuvent pas manger tout de suite. Je crois que le plus important à faire après une épreuve, c'est de boire, ça c'est une certitude. Boire, tamponner les acides, donc boire une eau qui soit riche en bicarbonate ou en citrate, prendre des citrates, ça c'est prioritaire. Et puis après, remanger et avoir véritablement un repas de récup. Et le cheat meal, on voit après. Quand l'intestin est un peu reposé.
Alors, j'ai une question qui est un peu. Mais c'est depuis que je fais du vélo. Moi, j'ai découvert que le cheat meal en vélo, il se fait pendant les courses. C'est-à-dire que c'est les arrêts à la boulangerie, moi, pendant le Gravelman, qui était une course 147 bornes, on s'arrêtait à midi, on a mangé un burger avec des frites, tu vois, alors, le truc. Et les gens m'ont regardé, mais qu'est-ce que t'as fait et tout, c'est pas possible, etc. Mais sur un vélo, comme t'as pas les secousses, t'as l'impression que tout passe et puis il y a une dépense calorique qui est énorme sur un vélo en plus et tout.
Oui,
Donc il y a une
oui.
espèce de vraie tradition, je veux dire, dans le monde cycliste. Moi qui découvre le vélo depuis 8 mois, il y a quand même une vraie tradition de la boulangerie et tout. Il y a même il y a la boulangerie Cycling Club qui existe sur Instagram, tu vois, et tout. Ils ont même des maillots. Enfin, je veux dire, c'est une espèce de vraie tradition, tu vois. Mais qui finalement, t'en viens à mettre le cheat meal en plein milieu de l'épreuve, tu vois, des fois, ou en plein milieu de ta sortie. Tiens, tu fais un 100 bornes, tu as mangé à la boulangerie un truc gras, sucré, des gâteaux et tout, et en plus ça passe super bien.
Alors, ça, c'est l'impression que tu as.
Ouais.
En fait, le cheat meal sur le vélo, c'est, je crois, c'est encore pire que tout. Parce que, en fait, en course à pied, c'est évident que tu t'amuserais jamais à faire ça parce que ça
C'est
repasserait tout
sûr.
de suite. Ça, c'est
Ouais, c'est
sûr. Et
sûr.
tu vas vomir dans la minute. Sur le vélo, tu as l'impression que ça passe. Donc, de toute façon, tu vas te permettre un peu plus de choses. Le sandwich, etc. Ça, ok. Mais, très bizarrement, et là, pour le coup, il y a des papiers qui le montrent. Très bizarrement, c'est pas parce qu'il n'y a pas de secousse que, il n'y a pas cette problématique d'hyperperméabilité intestinale. Et elle est encore plus vraie en cyclisme qu'en course à pied. Et donc, il y a plus de problématiques intestinales en cyclisme. Et donc, on a encore plus intérêt à faire attention en cyclisme que en course à pied. Donc, le cheat meal sur le vélo, là, j'avoue que c'est un concept qui me dépasse.
D'accord. Bon, ben j'arrête le vélo alors.
Ha 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 ha.
Non, mais bon. Alors, attends. Alors, on a parlé. Donc, pendant l'épreuve, non. Juste après, plutôt repas, récup, etc. Et on le décale un petit peu. Et alors, maintenant, avant les entraînements, avant les courses, il y aurait un écart à avoir, tu vois, se dire si dans une semaine, à quel moment faudrait que je le place, tu vois, si je veux avoir ce temps de respiration, de sociabilisation, de tout ce que je veux, quelle que soit la raison pour laquelle j'y mets.
Ben, s'il n'y en a qu'un, ça peut être effectivement une semaine, dans les 10 jours, une semaine, ouais, une semaine à 10 jours avant l'épreuve. Après, si ça revient régulièrement, ben, ça dépend de l'objectif de chacun. Est-ce que tu joues ta qualif au JO? Est-ce que c'est une épreuve qui est importante pour toi? Mais bon, voilà, si tu l'as fait, l'essentiel c'est que tu arrives entier et que tu ne te sois pas blessé, bon, tu peux le faire. Et puis, une fois encore, c'est compliqué comme question en fait, ce que tu es en train de me
Bien
demander,
sûr,
parce que.
je pose que des questions compliquées, moi, tu sais.
Parce que. Ça va dépendre des objectifs, ça va dépendre de l'état du sportif, ça va dépendre de son terrain faible à lui, sur quoi lui il a des difficultés, et puis qu'est-ce que va lui apporter ce cheat meal. Si ce cheat meal il est tellement important qu'il apporte une motivation supplémentaire parce que oui il fait des efforts, mais qu'il en a véritablement besoin pour son équilibre psychologique, bien sûr c'est important qu'il le prenne. Est-ce qu'on ne peut pas aussi imaginer à côté de ça un protocole d'accompagnement micronutritionnel pour protéger son intestin de façon à ce que ça fasse le moins de dégâts possible? Tout est imaginable. Je crois que ça pourra même être 2 ou 3 jours avant, si c'est son anniversaire de mariage. Enfin, je dis n'importe quoi, mais tu vois l'idée. S'il y a une occasion autour de laquelle, de toute façon, il veut pouvoir s'autoriser cet écart, pourquoi pas? Je crois que il faut essayer d'être pragmatique et trouver la solution qui lui convient, qui soit la plus confortable. Et finalement, à chaque choix. En sachant les conséquences que ça peut avoir, qu'est-ce qu'on met en place pour faire face à ces conséquences potentielles?
Et c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux dans ces histoires-là, parce que y a plein d'histoires de sportifs. Tu vois, moi, le truc auquel je pense, c'est Usain Bolt pendant les Jeux Olympiques à Pékin, qui estime avoir mangé 1000 nuggets au McDo, qu'il les mangeait même sur la piste. Parce qu'il était pas emballé par la nourriture chinoise, etc. Et qui pourtant, il ramène les médailles. Et tu te dis,
C'est
mais
ça.
c'est totalement injuste. Parce que toi, tu vois, moi je sais, par exemple, je mange un flan au goûter avec ma fille à 4 heures, entraînement à 6 heures, tu peux être sûr que je m'arrête dans un bosquet. Parce que c'est le ventre, il est en vrac. Flan aux œufs, tu vois, ça passe pas. Et tu te dis, c'est totalement injuste. Mais en fait, c'est la connaissance de soi qui va intervenir en disant, bah, il y a à quel moment je peux le prendre, quel jour, comment je peux l'adapter, etc.
Oui, absolument. La connaissance de soi, les capacités d'adapter. L'alimentation pour faire en sorte qu'elle soit le plus hypo-inflammatoire, hypotoxique possible autour de l'effort. Je ne suis pas une fana du il faut faire tout sans gluten, sans produits laitiers, sans ceci, sans cela. J'ai un peu de mal avec les extrêmes. En revanche, je pense qu'il faut s'adapter en fonction du cas de chacun. Ceux qui sont extrêmement fragiles, ils ont intérêt à aller vers ce type d'alimentation, mais à côté, ils ont aussi intérêt, dès que c'est possible, à élargir le champ des possibilités alimentaires pour éviter un appauvrissement, une fois encore, du microbiote. Parce que moins on mange varié et plus il va s'appauvrir. Mais après, une fois encore, c'est vraiment une question aussi de calendrier. Autour d'un effort, c'est sûr qu'il faut quand même essayer d'être vigilant.
Et puis, tu sais, il y a des trucs, moi je sais, parce qu'on a parlé avec tellement de sportifs différents. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, je parlais de la truffade. C'était bon, la bonne blague. Sauf que la truffade, dedans, laitage. Et tu parlais des laitages. Et tu sais, il y avait ce truc-là, disait, si on mange des laitages, ça favorise les tendinites, etc. Moi, j'ai eu des sportifs sur le podcast, hein, je le dis, certains des trailers, etc., qui disent, ah, depuis que j'ai arrêté les produits laitiers, les blessures ont disparu. Alors, je l'ai entendu à tellement d'endroits, et puis j'ai d'autres gens qui disent, ouais, mais moi, ça me fait rien. Alors, là encore, c'est vrai que. On n'est pas tous sensibles, un petit peu pareil, etc. Que c'est difficile, mais que il y a, c'est des, enfin, comment dire? En fait, il faut croire qui? Soit les études, il y a des études qui montrent ça. Comment on fait pour s'y retrouver, en fait?
Ben, c'est une excellente question parce que, en fin de compte, aujourd'hui, ce qui est, comment dire, ce qui fait foi, c'est à la fois ce qui fonctionne, et les publications scientifiques. Mais de plus en plus, je vois un courant qui grandit, qui fait qu'on ne croit que les études. Moi, je suis convaincue qu'il faut croire les gens parce que les gens sont experts d'eux-mêmes, ils se connaissent extrêmement bien. Et donc, ce qui convient à l'un ne convient pas forcément à l'autre. Et effectivement, en diététique, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraies, mais qui ne sont pas nécessairement adaptées à tout un chacun. Donc, ce qui est vrai pour toi n'est pas forcément pour ton voisin. Et donc, il y a des gens à qui il suffira d'arrêter, pour qui il suffira d'arrêter les laitages pour ne plus avoir de problème, et bien tant mieux, mais on ne sait pas ce qu'ils mangent d'autre, et il faut voir les choses dans leur globalité. Et puis, il y a des gens pour qui ça ne change pas grand-chose, et en plus, ils ont faim parce que ça faisait quand même quelques protéines en plus, et du coup, il faut qu'ils mangent autre chose à la place, et ce n'est pas forcément mieux. Donc, je crois vraiment que. Il n'y a pas de vérité unique et qu'il faut s'adapter à chacun et comprendre ce qui est bon pour soi. Il faut apprendre à se connaître. Ça, c'est fondamental. Et quand on se connaît bien, ben, c'est quand même plus facile de prendre les bonnes habitudes parce qu'on sait qu'elles sont adaptées, qu'on ne fait pas un effort qui est vain.
Et je pense que ce qui est intéressant aussi, bon, on disait le cheat meal, il faut que ça reste... alors normalement, c'est repas de triche, donc c'est un truc plutôt... De temps en temps, c'est l'extraordinaire dans un et l'ordinaire, c'est d'avoir l'équilibre qui nous convient, etc. J'ai vu il y a pas longtemps, tu vois, peut-être même aujourd'hui, une publication de je sais plus quel sportif qui disait que avant les compétitions, elle ne change rien du tout. Elle mange toujours pareil parce qu'elle sait ce qui lui convient. Pour les entraînements, ça lui convient. Donc pour les compétitions, ça lui convient et tout. Parce qu'il y a cette tendance aussi en fait à se dire, je rentre en compète, je rentre en prépa marathon, ou je sais pas quoi. D'un coup, je viens de devenir très strict là-dessus et tout. On se fout un stress quand même hein, quand on fait ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, ça commence un petit peu à mettre, on a la pression d'entraînement, l'organisation, on devient un peu moins sympa des fois avec soi-même et puis avec la famille, etc., qui commence à en avoir un petit peu le ras-le-pompon. Et tout ça, et je suis sûr qu'en plus, ce stress-là qu'on se met, ça crée de l'inflammation et de la blessure potentielle en plus. C'est-à-dire que c'est même pas souhaitable en fait d'avoir toute cette pression qui se met sur soi et que finalement il y a aussi une recherche d'équilibre qui est peut-être plus globale que sur ces temps de compétition, même si je dis pas qu'il faut pas les mettre. Mais que peut-être qu'il y a peut-être aussi une recherche plus globale dans le temps, quoi.
Absolument, absolument. Et l'orthorexie, ça s'appelle l'orthorexie, ce que tu décris, faire tellement attention à son alimentation qu'on n'accepte plus autre chose que ce qui vient d'un magasin bio, etc., etc., frais, bio, local, de saison, etc. Et il faut vraiment faire attention à ça parce qu'effectivement, on s'éloigne de son entourage, de son environnement, et ça peut créer des ruptures sociale, affective, et ça peut générer un stress supplémentaire qui lui-même va favoriser des tendinites ou des blessures. Donc, je crois vraiment qu'il faut essayer de se dire non, parfois on lâche du lest, l'alimentation c'est important, mais il n'y a pas que ça. Ça fait partie d'un tout et c'est pas plus, pas moins important que la qualité du sommeil, que d'avoir des bonnes relations avec son conjoint, avec. Ses collègues, ça se fait social de manière générale.
Bon, j'ai quand même une question, c'est qu'on ne peut pas ne pas parler d'alcool, parce que dans le cheat meal, bon, on a
Bien
parlé
sûr.
De ce qu'on mange, mais il y a aussi ce qu'on boit.
Et
alors, il y a le mythe de la fameuse bière de récup, il y a tous ces trucs-là, etc. Mais ça aussi, franchement, le rôle de l'alcool, on ne peut pas dire qu'avec certaines performances, ça soit vraiment super compatible tout le temps, et avec la récupération, je ne suis pas sûr non plus.
Là, pour le coup, c'est clair et net. Hein. Il n'y a rien qui est en faveur de l'alcool. Non, ça c'est sûr. Alors, l'alcool, en cheat meal, juste après une compétition, une épreuve, un gros effort, vraiment, il faut oublier. La bière de récup, non, pour la blague, je veux bien, mais c'est tout. Alors, en ce qui concerne la bière, c'est vraiment quelque chose d'un petit peu à part. Comme tout, ce n'est pas quelque chose qu'il faut jeter. Alors, je ne suis pas en train de dire, allez-y, buvez de la bière, mais... La bière, tout n'est pas à jeter dedans. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est une boisson qui est hyper glycémique, qui a une charge glycémique qui est très élevée. C'est vrai que c'est de l'alcool, donc ça déshydrate. Donc, c'est pas terrible non plus. C'est vrai que sur le plan hormonal, ça va favoriser l'hyperestrogénie la plupart du temps. Donc, attention s'il y a des troubles hormonaux. Mais à côté de ça, c'est aussi un liquide qui va contenir des probiotiques et à ce titre-là, qui peut avoir un intérêt pour le microbiote. Alors attention, ça dépend évidemment de la quantité qu'on boit. Au-delà d'un demi, il faut oublier les bénéfices potentiels. Et ça dépend dans quelles conditions, si c'est après un effort ou pas. Et la plupart du temps, c'est on a soif, on a fait un effort, donc on veut prendre une bière. Globalement, c'est à peu près le pire moment pendant lequel on a très très envie d'une bière. Une bière plaisir, pourquoi pas. Alors, j'ai essayé de faire des. Enfin, j'ai fait des recherches sur le sujet, et ce que j'ai constaté, c'est que la bière sans alcool n'aurait pas d'impact néfaste sur justement le microbiote. Donc pourquoi pas. Je ne suis pas en train de dire que c'est une boisson de récupération, mais en tout cas, bière sans alcool, pourquoi pas.
D'accord. On peut parler du vin rouge parce que, alors, moi, il y a un truc, ma mère, à table, c'est, mais tu vas prendre un petit verre de vin rouge, c'est bon pour la santé, il y a les tanins, il y a les trucs comme ça, et tout. Je dis, oui, mais attends, il n'y en a rien dans ton verre, là. Ça sert à rien, en fait, ta dose, là, que tu me donnes. Et elle veut pas me croire.
Alors, dans le vin rouge, oui, il y a des tanins, très bien, ça convient pas à tout le monde déjà. Il y a des polyphénols, ok, on cherche le resvératrol, très bien, hein, mais alors va falloir avoir une bonne descente, hein, pour avoir suffisamment de
Bah,
resvératrol
il faut
pour que ça
plusieurs
ait
litres,
l'effet. Mais c'est ça. Donc, hélas, oui, il y a des bonnes choses, mais pas en quantité suffisante. Et puis par rapport au type de bouteille qu'on veut, bah, ça va dépendre, hein, parce que manifestement, il y en aurait plus dans des rouges qui sont pas forcément de très très bonne qualité. Sur des vins très tanniques de garde, etc., il y aurait beaucoup moins de resvératrol. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle.
Ah, c'est la très mauvaise nouvelle pour ceux qui aiment le
Oui,
vin.
c'est ça. Donc, bon, c'est tout. La seule bonne nouvelle, c'est que ce sont des vins qui coûtent pas très cher, qui sont plus riches en resvératrol, mais vu les quantités qu'il faut boire, au final, je ne suis pas sûre qu'ils s'y retrouvent véritablement, même au niveau du portefeuille. Donc, l'idée est à oublier. Bon, l'alcool en tant que tel, que ce soit du vin rouge, du vin blanc, du champagne ou des alcools forts, c'est toujours une mauvaise idée par rapport à la récupération, parce que en plus de déshydrater, ça irrite l'intestin, le microbiote, et ça, c'est vraiment problématique par rapport à la performance et à la blessure.
T'as encore raison dans ce qui se boit, les trucs type soda, boisson de récup, boisson qui donne des ailes et compagnie et tout là. Donc en général beaucoup de sucre, or des fois en plus chargé en caféine, etc.
Oui.
On en pense quoi de ça?
Alors, tout ce qui est soda contient des acides. Évidemment, c'est ça qu'on cherche, le côté un peu tête brûlée qui arrache la tête, là.
Ouais.
Bon, super, c'est marrant. Sauf que ces acides vont avoir un effet acidifiant. Et donc, déjà que on a fabriqué de l'acide pendant l'effort, ces boissons-là vont encore acidifier davantage. Donc, c'est vraiment dommage parce que là, pour le coup, c'est le passeport pour la tendinite. C'est vraiment dommage. Alors oui, bien sûr, on a besoin de sucre après l'effort. Une boisson de récup, pourquoi pas, c'est son job. Donc une boisson de récup, j'ai rien contre. Les boissons énergisantes avec de la caféine, de la taurine, par exemple, je suis beaucoup moins fan. Pour une raison très très simple, c'est que on ne connaît pas les effets du gluconolactone, donc un des sucres qui est dedans, sur le cerveau, ou du moins. On n'a pas les moyens de démontrer qu'il n'a pas d'effet délétère. Donc, là encore, je pense que le mieux, c'est de ne rien faire, ou en tout cas d'aller au plus simple, c'est-à-dire de l'eau. Le mieux, ce serait bien sûr de la badoit ou de la ceinture, qui peut être diluée avec du jus, parce qu'on peut ne pas aimer ça, c'est pas un souci, ou éventuellement de l'eau plate. Mais en tout cas, le mieux, c'est de se réhydrater. Il n'y a rien qui réhydrate mieux que de l'eau. Mais les sodas, c'est pas incroyable. Ça peut faire même plus de mal que de bien. On se dit non, non, je l'ai bien mérité. Bah oui, bien sûr, mais vous avez surtout mérité d'être en bonne santé après tout ce que vous avez fait, vous avez mérité de récupérer.
Bon, bah notre cheat meal, il y en a quand même pris un peu par la figure hein, dans cette histoire-là. Moi, je finirais bien quand même sur un cheat meal, tu sais, de dire de donner des idées, tu sais, dans le truc. Parce que, par exemple, je voudrais pas les classer, tu vois, dans l'histoire, mais je me dis, est-ce que, par exemple, dans une échelle, tu vois, une pizza, une bonne pizza, tu vois, c'est mieux
Ouais.
qu'un burger, c'est mieux que, moins bon qu'une grosse plâtrée de pâtes, tu vois, pleine de
Ouais.
crème. Où je place ma fameuse truffade, tu vois, est-ce que dans l'échelle elle est plutôt dans le pas si pire ou le vraiment très très pire? Est-ce qu'on pourrait classer les choses comme ça ou est-ce que finalement ça n'a aucun sens et que on doit surtout prendre ce qui va nous faire plaisir ce jour-là?
Alors, ben, plaisir, c'est à voir, parce que idéalement, moi, ce que j'aimerais, c'est que ceux qui nous écoutent aujourd'hui se disent, ouais, c'est quand même super important de démarrer par un bon repas de récup et après seulement de se faire son cheat meal. J'y ai pensé à cette notion de gradation, d'échelle, du moins pire au plus plus pire, mais une fois encore, c'est tellement dépendant de chacun que Je ne sais pas. Les sushis, parce que là encore, je crois qu'il y a aussi la notion de l'accessibilité du cheat meal. Ouais. Si on décide que de toute façon, après l'effort, on va se faire plaisir, bon, bah ok, sauf que ce qui est accessible, généralement, c'est du Deliveroo, enfin bref, ou c'est des choses qui sont ouvertes à toutes les heures du jour et de la nuit. Donc, ce n'est pas forcément compatible, même avec ce qu'on vient de dire, et qualitativement avec le moins d'additifs possible. La pizza, c'est pas si horrible, mais ça va dépendre de ce qu'on met sur la pizza. Si c'est par exemple une pizza à quatre fromages ou comme on appelle ça aussi les Tex-Mex avec pepperoni, merguez, etc., et chorizo, ben attention, ça fait quand même beaucoup de gras, beaucoup de viande rouge, donc méfiance. Les pâtes, ça a l'air pas si horrible comme ça, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup de gluten. Alors, une fois encore, je n'ai rien contre le gluten, mais après un effort violent et long, on fait quand même bien attention. Je préfère qu'on le prenne en dehors. La truffade, finalement, elle me va bien, parce que son seul défaut, c'est d'être grasse.
Ouais. Bah oui, sinon, elle serait pas bonne.
C'est ça.
La crêpe saucisse, ouais.
Ouais, la galette saucisse. C'est ça, là aussi, je trouve que son seul défaut, c'est d'être grasse. Alors, elle peut avoir deux défauts si elle est accompagnée d'une barquette de frites.
Aïe, aïe, aïe.
Là, c'est moins bien. Mais c'est quand même fréquent, hein, on va pas se mentir. Ce qui pourrait être pas mal, hein, j'insiste encore lourdement là-dessus, c'est de se dire, bon, allez, de toute façon, il n'y a rien qui me plaît, j'ai de la route, je me fais un gâteau. Et puis, un gâteau maison, je l'ai préparé au même titre que j'ai préparé mes ravitaillements. Et puis, on verra le cheat meal demain dans mon restaurant préféré. Ça, je trouve que c'est quand même là, ça reste l'option la plus raisonnable. Parce que là, on peut choisir. Et on ne subit pas quelque chose qu'on ne maîtrise pas forcément si on n'est pas sur place et qu'on ne connaît pas l'endroit. On ne maîtrise pas la qualité de ce qu'on va manger, etc. Donc, je pense que c'est quand même mieux d'essayer de se dire « Non, non, je le prends plus tard. »
Ouais. Mais tu sais, moi j'ai une anecdote et que j'en suis pas très fier ce jour-là, mais je l'ai payé très cher. Après un trail nocturne qui faisait 12 km, ou non 16, et avec des copains de club, on est passé par un fast-food qui fermait à minuit, tu vois hein, une belle arche jaune. Et je crois que ce qui m'a fait le plus mal, c'est ce repas où une heure après j'étais malade et j'étais malade pendant tout le week-end, alors que normalement je digérais pendant les trucs.
Ouais.
Mais tu vois, la digestion, j'ai l'impression que tout ce qui rentrait devait ressortir automatiquement. Et bien sûr, il y avait la fatigue de la course, etc. Mais de rajouter ça par-dessus, j'ai l'impression que ça m'avait flingué. En plus, il y avait le coca, en plus, donc les frites, le ketchup, tout le truc et la petite glace dessus en plus. Avec,
mais
tu
oui.
Vois, la totale. Et c'est vrai, hein, le truc, je crois que la course était le samedi soir jusqu'au lundi midi à peu près. J'étais vraiment pas bien. Et ça m'a servi de leçon, tu vois, sur la question de me dire, quand même, c'est vrai qu'on n'y pense pas sur l'instant, hein, de l'impact que ça peut avoir. Mais c'est vrai, quand même, notre corps, on le fait travailler. On le secoue dans tous les sens, surtout quand on court, etc.
Ouais.
On lui demande beaucoup. Et c'est vrai que cette récupération, et ce qu'on peut lui rajouter dessus des fois, il va nous dire, hé, mon gars, là, t'es bien gentil, mais on se calme. Et tu vois, ce jour-là, il m'a fait un sacré rappel. Et c'est pour ça que c'est un sujet, tu vois, je dis franchement, je pense que moi, j'étais pas sensible à ça, tu vois, ce truc-là, ça me paraissait, ouais, bah, tout, on y va tranquille. Mais en fait, maintenant, je me méfie un peu, quoi.
Et toi, tu as cette alerte. Et quelque part, finalement, ton corps, c'est ça que je trouve formidable, il te parle, tu l'écoutes, il te dit, non, non, ça ne va pas, mais toi, tu as l'alerte tout de suite. Là où c'est plus délicat, c'est les gens qui disent « Non mais moi, de toute façon, j'ai un sale broyeur, tout va bien, à la place du ventre, il y en a qui m'en disent ça. Moi, tout passe. Moi, écoute, super, hein, mais tout passe, ils supportent tout. » Et ils ne se rendent pas compte sur le moment. Et c'est après, « Ah bah tiens, en ce moment, j'ai une déchirure musculaire, etc. » Et alors, on ne peut pas se dire « La déchirure musculaire, bah oui, évidemment, elle n'est pas forcément liée qu'à ça. » c'est pas ça que je veux dire, mais en tout cas je suis convaincue que ça a une part de responsabilité, et là c'est plus difficile de faire le lien, et je comprends que du coup soit plus difficile de changer ses habitudes.
Ouais. Moi, c'est un constat que j'avais fait aussi, et je finirai là-dessus, c'est qu'il y a une époque j'étais dans, je suis à un club de foot, tu vois, et il y avait des joueurs qui étaient jeunes et qui le lendemain d'un match étaient totalement HS, Et puis à côté, il y avait des vieux qui, eux, couraient dans tous les sens. Et souvent, en fait, je demandais à l'intendant, je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est pourquoi il y en a un qui court, qui a 36 ans, qui court encore, et que le jeune de 23-20 ? Il m'a dit, ils n'ont pas mangé la même chose toute la semaine. Et, et lui, sa pensée était de dire, franchement, sur l'hygiène de vie, il dit, les joueurs qui durent, les joueurs qui ne durent pas, je vois tout de suite la différence. J'ai eu des cas, je me rappelle certains joueurs avec lesquels j'avais discuté et tout, qui me disaient, 3-4 jours avant, on faisait des lives et tout pour le site du club. Et un jour, le match était, le samedi soir, on va manger au restaurant le jeudi, et puis tout le monde commence à prendre des frites, des burgers et tout. Et puis, tu sais, tu lui prends juste une escalope de poulet avec une salade et je sais plus quoi, et des quelques pâtes, mais il dit pas trop, s'il vous plaît. Et les gens le regardent, il dit, oui, mais moi, j'ai mal en 2 jours, et je peux pas manger ce que vous mangez. Et tu sais, ce truc-là, je me suis dit, il y en a qui en ont conscience, il y en a qui n'en ont pas du tout conscience, parce qu'elle est, club d'à côté, il y a des gars qui mangeaient pizza, bar chocolaté, etc., tout en étant les meilleurs joueurs du monde, tu vois, en rugby, par exemple. Et qui mangeaient jamais de légumes, en plus, le pire. Des Fidjiens, tu vois, par exemple, qui arrivaient et tout, qui mangeaient leurs pâtes, tu dis, mais comment ils font ? Et c'est vrai qu'il y a une certaine injustice, parce qu'ils arrivaient à avoir des performances qui étaient incroyables, mais parfois, ils le payaient dans le temps, sans trop s'en rendre compte, etc. Et c'est vrai que le lien, il est difficile à faire, mais que certaines personnes, tu vois, ils faisaient quand même... Ils disaient, attention, méfie-toi sur ces choses-là, etc. Mais que c'est quand même difficile de faire le lien direct pour certains, et qu'on n'a pas trop conscience, parce que des fois, on voit les gens qui font des trucs... C'est vrai que ça a l'air d'être des années broyeurs, comme tu dis, que tout a l'air passé, quoi.
Alors là, en fait, si tu veux bien, si on a 2 minutes pour finir, j'aime bien faire le parallèle, parce que finalement, quand on fait de la diététique comme ça, on parle de prévention de la blessure, on fait de la prévention des risques. Et si tu regardes sur Internet, il y a une courbe fabuleuse, j'ai oublié le nom, mais cette courbe, elle montre le lien entre la connaissance et la prévention des risques. Et en fin de compte, c'est une courbe qui est descendante et qui montre que plus on sait, plus on est impliqué et moins il y a de risques de blessures. Et on pourrait tout à fait identifier ça à l'alimentation parce qu'au fond, on remarque que dans le premier cas, les gens qui soit ne savent pas, soit s'en fichent complètement, disant « Ah non, c'est bon, je vais profiter de la vie, etc. » Super. Eh bien, le risque est important, qui ne veut pas dire que tout le monde fera des blessures, mais le risque est important. Et puis après, il y a ceux qui savent un petit peu mieux, qui, bon, voilà, ils le font sous la contrainte, ça ne leur plaît pas, mais on leur a dit, donc voilà, ils suivent, ils font. N'empêche que le risque, il est moindre. Et puis après, il y a des gens qui sont engagés, qui sont vraiment dans la connaissance et qui font les choses en étant légitimement convaincus que ce qu'ils font, c'est bien. Et ça, c'est formidable parce qu'effectivement, on baisse le risque. Et alors, le troisième cas que j'adore, et c'est le cas où on a la personne qui est consciente que ça va baisser le risque de blessure et qui interagit avec les autres et qui dit « Non, écoute, là, tu peux pas faire ça, c'est pas sérieux. » Et ce que je trouve intéressant, c'est que quand on est dans un club, justement, ou qu'on a un groupe de copains et qu'on veut tous faire la même épreuve, je pense que ça peut être intéressant d'être dans une dynamique où les uns et les autres, on s'entraide. Parce qu'il y a ça aussi, il y a l'effet de groupe qui peut être soit un cercle vicieux, soit un cercle vertueux. Mmh. Et emmener tout le monde dans ce cercle vertueux en disant « Non, écoute, là, tu déconnes, fais attention, s'il te plaît, fais-le pour toi, parce qu'on a envie de le faire tous ensemble, d'arriver tous ensemble, et puis on pourra effectivement faire un truc après. » Mais je pense que se soutenir ensemble, c'est amener certains qui ne sont pas forcément au même niveau justement dans la prévention du risque à un niveau supérieur de conscience de l'importance de faire attention à leur alimentation.
Ouais. Et tu sais, il y a un exemple et l'histoire, je sais pas si tu dois connaître l'histoire de Cristiano Ronaldo, qui était à l'époque, quand il était retourné jouer à Manchester, sur les repas. En fait, le premier repas qu'ils prennent en groupe, il prend pas de dessert. Et tous ses coéquipiers, quand ils ont regardé, ses nouveaux coéquipiers qu'ils connaissaient pas, parce qu'ils redébarquaient dans le club, ils ont regardé et ils se sont dit, on va peut-être pas prendre de dessert, parce que si le big boss... qui a commis le ballon d'or, je ne sais même plus combien de ballons d'or, mais qui a une hygiène de vie qui est tellement incroyable. Et on le voit d'ailleurs à son âge encore, à quel point l'hygiène de vie il avait. Et il n'a pas eu beaucoup de blessures dans sa carrière, hein, Cristiano Ronaldo.
Oui.
Et ben, ils se sont dit, oulala, si le big boss, il a. Et cet exemple-là, c'est vrai que ça a marqué. Il y a eu énormément d'articles de cette histoire-là, de dire, ils ont arrêté de manger certains gâteaux, certains brownies qui pouvaient prendre des trucs comme ça, ils ont arrêté ça. Et c'est vrai que cet exemple-là, c'est typiquement le genre d'impact que peut avoir quelqu'un qui fait attention, qui peut dire, moi je fais ça, on peut avoir ce genre de pratique-là, et que chacun peut le faire à son niveau, en fait. Hein, tous ceux qui écoutent le podcast, maintenant que tout le monde en est conscient, finalement, Si vous partez courir en groupe, etc., se préparer une course, vous pouvez dire, bah tiens, pour après la course, on va se préparer chacun un gâteau qu'on aime bien, mais on le fait maison et tout. Et puis dans la semaine, on se ira se faire notre cheat meal quand on aura récupéré.
Exactement. Tout à fait.
Eh bien, écoute,
Ma
j'ai
joie,
tout
c'est
compris.
formidable.
J'ai tout compris. Je te remercie. C'était. Ouais, tu ne m'as pas trop démoli mon cheat meal quand même. Hein, ça va. On est resté à peu près. Puis t'as dit du bien de la truffade et de la galette saucisse. Donc on est bien avec l'Auvergne, on est bien avec la Bretagne. C'est le principal. T'as pas trop dit mal de champagne, ça va, hein, par rapport à. Parce que le champagne, c'est pareil que l'alcool, c'est l'alcool comme un autre, donc on se méfie, toi qui as rien, c'est tout.
Ouais, alors écoute, on va pas te dire du mal du champagne, mais on va pas non plus en boire des coupes après
Ouais.
Ronin Rhin, toi, qui est d'ailleurs dans quelques semaines.
Ouais, parce que les gros trucs de bouteilles de champagne sur les podiums, etc., où on les voit, ou certaines courses, alors des fois c'est du champagne, des fois c'est de la bière, etc., on les voit boire, certains sportifs. Ou certains ils font comme si. Bon, on sait que c'est pas trop bon pour la récup. On a tout compris. Bien sûr, Aude. Alors, un truc important. Où est-ce qu'on te retrouve si on veut voir tes conseils? Et t'as parlé d'une chaîne YouTube d'ailleurs, donc il faudrait que tu me donnes le lien.
Oui, avec plaisir. Alors, on peut me retrouver, donc prendre un contact avec moi sur mon site, audebazin.fr. Et puis, je mets quelques recettes. Ça fait pas longtemps, donc soyez un peu indulgents, s'il vous plaît, parce que j'en ai pas encore beaucoup. Je dois avoir une petite dizaine de recettes, mais voilà, ça commence à faire. Des recettes qui sont plus pour les sportifs, mais qui sont bonnes pour tout le monde, en fin de compte, sur une chaîne YouTube. Tapez Audebazin et puis tout le monde tombera dessus.
Non, mais t'as raison de le dire en plus, parce que tout le monde cherchait des bonnes idées, et c'est vrai que le problème, c'est qu'on a la conscience de ce qui serait pas mal, mais après, trouver des recettes adaptées, c'est pas toujours facile, etc., et
Mais
d'avoir
c'est
des
la
bons
mise en
exemples.
œuvre qui est compliquée.
Ouais.
Ouais, je suis tellement d'accord. C'est pour ça que on me demande souvent, mais ouais, mais comment on fait? Donc je me suis dit, bon, bah, le plus simple, c'est d'aider les gens à voir qu'il faut démystifier. C'est pas parce qu'on fait de la diététique du sport que c'est compliqué. Et en deux coups de cuillère à peau, ça se fait assez facilement.
Ouais, moi je suis toujours assez épaté parce qu'à chaque fois que je partage une recette de cuisine sur mon compte Instagram, c'est là que j'ai le plus de likes, ou presque.
C'est vrai?
Sauf, oui, alors ça c'est quasiment sûr parce que la semaine dernière j'ai testé, puis les gens je pouvais télécharger ma recette et tout. Franchement, en nombre de en statistiques, c'était vraiment. Il y en a un ou deux qui passent un petit peu au-dessus, ça dépend quand je raconte des conneries, quand je cours pieds nus dans l'herbe, tu vois, il peut y avoir des trucs comme ça. Mais la recette de cuisine, c'est un truc qui marche systématiquement, je crois que c'est le truc qui est le plus téléchargé sur mon site. C'est les recettes de cuisine un peu plus adaptées, tu vois, des trucs comme ça. Enfin, bref, qui datent de ma perte de poids, tu vois, ma fameuse recette de gâteau au yaourt, je pense, m'a rapporté des centaines d'inscrits sur ma newsletter. Parce que, bah, et tu sais, au moment du confinement, c'était encore pire quand tout le monde cherchait à faire des recettes et tout.
Oui.
Tout le monde et les gens sont tombés là-dessus, ils ont dit, ah, bah, c'est une bonne idée, en plus, il y a moins de sucre, comme je bouge moins, etc., tu vois. Et c'est vrai que je pense que tout le
Oui,
monde est à
oui.
la recherche de recettes, d'astuces pour cuisiner plus vite, pour que ça aille plus vite, etc. Et c'est pour ça que aussi on a des épisodes sur le
Enfin,
sujet
c'est
qui ont
bon.
très bien marché, quoi.
Oui, je comprends. Je comprends.
Eh bien, écoute,
Eh
sur
bien,
ce,
merci beaucoup, Bertrand.
merci beaucoup à toi. C'était toujours aussi intéressant, je te remercie beaucoup. Bien entendu, alors je mets les liens dans les notes de l'épisode vers ta chaîne YouTube, vers ton site, vers l'autre épisode, hein, on est parlé de la glycémie et tout. Puis il y a des épisodes complémentaires, je le dis, parce qu'on avait, je pense, à l'épisode avec Vrob sur la malbouffe, l'épisode avec Julien Scanzi sur le microbiote, où on avait parlé en détail du
Oui.
microbiote, etc. Anthony
Ah,
Berthoud
c'est
aussi,
top.
allez écouter l'épisode d'Anthony Berthoud, on avait parlé aussi de tous ces sujets-là qui sont connexes, etc. Donc allez voir dans les archives si vous n'avez pas écouté. Et puis, bien entendu, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Je ne vous dis pas l'invité parce que j'en sais rien du tout, en fait. Je demanderai s'il fait un cheat meal le prochain invité, tiens, par curiosité. si sur la date du cheat meal. Maintenant, ça va être la question. Cheat meal ou pas cheat meal? Bah, vous le saurez dans le prochain épisode. Merci beaucoup, Aude.
Merci Bertrand, à bientôt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.